Bonjour, c'est Émilie. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la préparation de la rentrée. Nous sommes donc en juillet, ce sont les vacances et pour la première fois en 14 ans, j'ai décidé de ne pas passer mon été complet à travailler. Là, il faut que je sois un peu plus efficace, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que la quantité de travail et le temps que ça me prenait pendant tout l'été ne me permettait pas forcément d'alléger le temps de travail au quotidien dans l'année. Et donc, il faut que je sois efficace. Il y a un minimum de choses à faire pour être bien à la rentrée, mais il faut que j'arrête d'y passer tant de temps pour, au final, travailler encore de nombreuses heures au quotidien toute l'année. Donc, avant, je passais beaucoup de temps à faire les progressions. Alors, pour petit rappel, les progressions, c'est dans quel ordre on va faire les choses, et la programmation, c'est à quel moment de l'année on va le faire. Donc je passais beaucoup de temps à faire les progressions et à essayer de programmer dans l'année tout ce que je faisais. Et puis finalement, les programmations à l'année sont souvent très ambitieuses. On veut faire plein de choses, on veut tout faire rentrer, on se stresse. Donc au final, on a continuellement le sentiment d'être en retard toute l'année. Alors que finalement, voilà, les programmations, en tout cas à l'année, elles sont pertinentes pour nous guider sur les œuvres de littérature, par exemple, qu'on veut aborder en rapport avec tel ou tel projet qu'on va faire à tel moment de l'année, pour l'histoire, la géo, quand on est au cycle 3, ou questionner le monde, sachant que malgré tout, on va souvent être trop ambitieux et revoir à la baisse au cours de l'année. Mais voilà, ça, c'est les choses pour lesquelles il peut être vraiment intéressant de faire une programmation à l'année, mais sans entrer trop dans le détail. Alors, ce que je vous conseille avant de commencer à programmer sur l'année, c'est de déjà planifier un peu les temps forts de l'année pour savoir à quoi vont se raccrocher telle ou telle activité. Par exemple, la date de la journée des droits de l'enfant ou en sport, tel événement sportif organisé sur la circonscription. Voilà, donc et mettez déjà ça dans chaque période et ensuite, vous pourrez voir voilà, ce que vous pouvez programmer en rapport avec ça. Alors j'en profite aussi pour vous dire que tout ce qui est progression et programmation, il faut vraiment voir ça comme un réel outil de travail pour soi et pas comme un document obligatoire qu'on nous demande et qui doit être affiché dans la classe. Moi, quand je travaille et que je prépare, je vais dans ma programmation. Alors pour le coup, moi, je vais dans ma programmation de période pour voir, bon ben voilà, là, j'ai fait ça, maintenant, je fais quoi. Donc vraiment, ça doit être un outil pour vous, simple d'utilisation. Ce que je vous conseille pour les progressions, c'est tout simplement de faire une liste dans l'ordre des choses que vous allez aborder dans l'année. Et puis ensuite de les reprendre à chaque période, c'est ce que je fais en tout cas, à chaque période pour refaire à partir des progressions sur l'année, des programmations plus précises sur la période. Et alors là, par contre, pour la programmation de période, je vais vraiment essayer d'être le plus précise possible pour que ça me soit un outil qui me permette de gagner du temps au quotidien. Et donc, tout ce que je peux planifier à la semaine, voire à la journée, par exemple pour le calcul mental, je vais le faire. Donc, pour résumer, les progressions, elles sont plutôt larges et c'est juste un ordre, elles sont à l'année. Et elles me permettront à chaque période de faire ma programmation de période. Et cette programmation de période, c'est celle qui va me permettre au quotidien de préparer ma classe et de remplir mon cahier journal. Alors, si c'est votre première année sur le niveau ou si vous arrivez dans votre école, que vous débutez ou pas d'ailleurs, je vous conseille vraiment de vous appuyer sur les progressions des collègues pour la simple et bonne raison que déjà c'est un premier pas vers le travail d'équipe qui est primordial dans notre métier. Et puis ben, ça permet aussi d'uniformiser la progression des élèves sur un même niveau dans une même école. Si vous n'avez pas pu contacter vos collègues de la nouvelle école avant les vacances, ne vous lancez pas spécialement dans une programmation très détaillée qui vous prend du temps, parce qu'il est fort probable que vous arriviez dans une école dans laquelle il y a déjà des progressions de cycle et que vous soyez obligé de tout refaire. Ce serait donc du temps perdu. Vous pouvez sinon suivre les progressions des manuels que vous allez suivre dans la classe, qui sont en général plutôt bien faites. Après, méfiez-vous des éditions, des années d'édition, et faire en sorte que ce soit bien conforme au dernier programme en vigueur. Alors, pour finir avec cette histoire de progression et de programmation, je vais revenir sur la programmation de période. Ce qui est important, et ce sur quoi vous allez devoir prendre un peu plus de temps, c'est de bien détailler et de bien préparer la programmation de votre période 1. Donc vous allez essayer déjà de programmer tout ce qui est programmable précisément, comme le calcul mental. Ça va vous faire gagner du temps de déjà prévoir les notions que vous allez voir, dans quel ordre, et d'avoir déjà vos calculs à l'avance. Voilà, et les modalités, etc. C'est pas super long, mais ça fait gagner du temps au quotidien. Tout ce qui est rituel, si vous avez des rituels dans votre classe, des phrases du jour. Alors moi, personnellement, les phrases du jour, je préfère les choisir dans le quotidien des élèves, donc je les prévois pas trop à l'avance, mais voilà, ou des rituels d'écriture. Vous pouvez même aussi déjà commencer à programmer les devoirs. C'est-à-dire que comme ça vous permet aussi de réfléchir à leur contenu et de... Excusez-moi, il y a une moto qui passe. De réfléchir au contenu des devoirs et peut-être de les ritualiser aussi d'une semaine sur l'autre. Ça peut être, par exemple, de se dire le lundi soir, les devoirs, c'est du calcul mental sur la notion qu'on aura vue le matin. Ou le mardi, c'est forcément quelque chose sur l'histoire parce qu'on a programmé l'histoire le jeudi. Enfin, voilà. Donc, de prévoir un peu les devoirs que vous avez donnés dans la période. Alors, ce que vous pouvez aussi faire en dehors des programmations de la période 1 et des progressions de l'année, c'est de préparer votre première séquence ou au moins première séance de plusieurs domaines. Donc, moi, en général, ce qui me prend beaucoup de temps dans l'année, c'est de faire les séquences de tout ce qui est QLM au cycle 2 ou histoire géosciences au cycle 3. Donc, voilà, vous pouvez, par exemple, commencer par prévoir votre première séquence et bien détailler les 2-3 premières séances de vos premières séances, de votre première séquence d'histoire, de géo, de sciences. Vous pouvez aussi prévoir votre premier cycle de PS en vous disant que pour le moment, vous n'avez pas... accès aux emplois du temps, des salles et des éventuels intervenants, mais vous pouvez déjà programmer du sport dans la cour, par exemple, pour les 2-3 premières semaines. Pour le sport, les premières semaines, j'aime beaucoup faire des jeux de coopération, pas forcément sport collectif, mais des jeux de coopération qui permettent un peu de souder le groupe. Ou bien j'aime aussi faire des activités qui leur permettront ensuite de d'avoir des idées pendant la récréation. Donc du double dutch pour la corde à sauter, ou de la balle aux prisonniers, un peu de basket ou de dribble, voilà. Et puis pour finir, il y a tous les petits incontournables de préparation de la rentrée qui sont plutôt agréables à faire. Donc moi j'aime beaucoup pendant l'été préparer une belle affiche de porte, sur laquelle je mets une devise qui sera notre devise de l'année. J'aime bien aussi préparer les pages de garde des cahiers, une belle liste pour la rentrée. Alors, ce que je prépare aussi, que je reprends souvent d'une année sur l'autre, c'est une liste, plusieurs listes d'ailleurs, une liste d'émargement pour la rentrée, sur laquelle je vais pouvoir noter qui mange à la cantine ou pas le premier jour, qui a apporté tel ou tel matériel, qui a bien rendu les documents administratifs. Je prépare une autre fiche qui me permet de ne pas oublier d'observer les gauchers, qui portent des lunettes, les PAI, et puis toutes sortes d'items d'observation pour la rentrée. Parce que je n'aime pas beaucoup faire, dès le début de l'année, des grosses évaluations diagnostiques. Par contre, d'avoir une liste d'observations sur la lecture à voix haute, sur la mise au travail... sur l'écriture, la copie. Voilà, ça permet d'avoir des indicateurs qu'on pense prendre et mémoriser, mais ça permet voilà, de ne pas passer à côté de certains élèves et donc de tous les observer. Donc ça, c'est vraiment un truc important à faire et qui nous permettra de très vite mieux connaître les besoins de nos élèves. Voilà, j'espère que ce podcast sur les préparations de la rentrée vous aura plu. Il n'est pas du tout exhaustif. Je pourrais peut-être en faire un deuxième si d'autres idées très importantes me viennent à l'esprit. Et en attendant, je vous souhaite un bel été.